France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, les complaintes criminelles, deuxième partie. La complainte criminelle, chanson reproduite sur une feuille illustrée ou canard sanglant, est le plus souvent anonyme. Durant les siècles passés, elle racontait un fait divers contemporain avec force détail, sur un air connu, pour captiver l'auditoire du colporteur qui la chantait en plein air. Cette production éphémère, foisonnante et méconnue, est devenue la passion d'un chercheur-collectionneur, Jean-François Hetzen, dit Maxou, qui vient de publier chez Bleu Autour une somme sur le sujet. Chanter le crime, canard sanglant et complainte tragique. Après avoir évoqué les premiers temps héroïques, nous arrivons à l'époque qu'il a le plus étudiée, la Troisième République, qui débute en 1870 pour s'achever en 1940. Une période foisonnante pour les complaintes criminelles. Dès qu'on se donne le mal de chercher, on en trouve en abondance.
Il y a de ça, mais il se trouve que à cette époque-là, la presse populaire, le Petit Parisien et journaux similaires, est montée en puissance. Et au lieu de faire taire la complainte, au contraire, ces journaux ont donné de la matière à complainte. C'est-à-dire qu'on avait là une source fiable qui racontait le crime de A à Z. Donc les canardiers recopiaient purement et simplement l'article de journal, écrivaient une complainte à partir de cet article de journal, voire à partir de témoignages recueillis sur place s'ils se trouvaient à proximité du crime, une image de réemploi, et c'était parti. Et j'ajoute qu'à cette époque-là, les mandats postes fonctionnaient très bien, et donc on avait des chanteurs ambulants qui commandaient leurs complaintes auprès de certains éditeurs par la poste. Ils envoyaient un article de journal, la complainte, ou demandaient à l'éditeur de l'écrire, et ils recevaient par retour du courrier, moyennant un mandat poste, leur stock de canards qu'ils pouvaient vendre. Ça, c'est avéré, on en a des traces de feuilles de complaintes bretonnes imprimées dans le Cher et qui utilisent des articles de journaux bretons, journaux qu'on ne pouvait pas trouver à Saint-Amand-Montrond. Donc ça veut dire qu'ils ont été envoyés par la poste pour réaliser le canard.
Habitants de toute la France, de la Bretagne, de l'Anjou, jeunes et vieux prenaient connaissance dans le Maine-et-Loire et partout du récit émouvant d'un crime sanglant. On vit sur les bords de la Loire ce drame terrible et navrant. Cette bien lamentable histoire fait frémir les honnêtes gens. C'est à Angers, en pleine ville, 156 routes de Paris, dans un quartier des plus tranquilles, que vint habiter ce bandit, le sieur de Lumeau et la fille Maillot. Car cet homme avait sa compagne, même qu'il la terrorisait. L'homme courait en ville, en campagne, on ne sait de quoi il vivait. De tous ses métiers illicites, de Lumeau était bon à tout. L'argent, il le dépensait vite, souvent il était sans le sou, et pour de l'argent, l'infâme brigand. Afin de se tirer d'affaire, il s'y connaissait assez bien. Même pour des mauvais coups à faire, il ne reculait devant rien.
Alors donc ces complaintes étaient écrites sur des airs connus, hein. On a parlé de l'air de Fualdès, qui est un des plus utilisés, mais il y en a eu beaucoup d'autres.
Oui.
Alors je crois même que vous vous êtes livré à une sorte de palmarès, en quelque sorte, des airs les plus utilisés.
Oui, alors, donc, ce qu'il faut dire en préalable, c'est que c'est une forme de composition très courante en France au 19e, qu'on appelle la composition sur timbre, qu'ensuite on a appelé la parodie, et que maintenant on appelle la goguette. C'est prendre une mélodie connue et remettre de nouvelles paroles. tous les gens qui vont dans les manifestations connaissent ça. Donc, sur les feuilles du 19e, il est parfois marqué « air connu » ou il n'est rien marqué du tout, c'est-à-dire qu'il fallait être présent lorsque le canardier a vendu son canard pour comprendre de quel air il s'agit. Alors, on arrive la plupart du temps à les reconstituer ou à trouver des airs qui fonctionnent. Alors, la complainte de Fualdès, c'est l'air le plus utilisé et on l'a parfois appelé l'air de toutes les complaintes. J'ai trouvé une affaire criminelle en Dordogne où toutes les complaintes écrites sur cette affaire sont sur cet air-là. Alors ensuite, avec la diffusion des cafés-concerts en France, on a une évolution du répertoire par un élargissement du répertoire et l'apparition d'airs du type Béranger à l'Académie, qui a été un tube très, très, très important après 1860, et d'autres chansons, et en particulier l'arrivée petit à petit du refrain. C'est-à-dire qu'on prend des chansons qui ont un refrain. Alors, soit le canardier inclut un refrain dans sa complainte, mais musicologiquement parlant, ce n'est plus une complainte, c'est une chanson, parce que la complainte n'a pas de refrain dans la forme musicologique basique.
C'est une suite de couplets.
C'est une suite de couplets sur un thème mélodique, voilà. Mais on a également des feuilles où on voit sur un air d'une chanson un refrain, et il est indiqué premier refrain, deuxième refrain, troisième refrain. Autrement dit, les paroles du refrain changent à chaque fois.
Dans un fort accès de colère, ô la commune de Vezin, deux habitants de cette terre ont tué trois de leurs voisins. Cet acte sanglant est des plus navrants. Ah, que notre époque a de rage, pour des mots on prend le fusil. Et la mort frappant ce carnage fait des orphelins tout petits.
Le plus bel exemple, c'est la Paimpolaise, 1895, qui devient le tube ultime pour chanter les crimes. Après Fualdès, c'est la mélodie la plus utilisée.
Et après, il y a
d'autres. Alors, quand arrivera sous les ponts de Paris, c'est très, très fréquent. Dans les genres de timbres anciens, il y a le juif errant, qui est très utilisé jusqu'à la guerre de 14.
C'est une complainte connue.
Oui. Une complainte connue, oui. Et ensuite, dans les années 30, c'est Vincent Scotto qui enlèvera le marché, avec « Quand on s'aime bien tous les deux ». Et puis une autre chanson qui s'appelle « C'est une chanson dans la nuit » qui est très utilisée également. Mais la Paimpolaise, bien composée en 1895, sert de base à des chansons criminelles. J'emploie à dessein le mot « chanson » par opposition à « complainte » parce que là, on le verra, la forme se rétrécit, se raccourcit, jusqu'à la libération.
Ah oui, quand même, donc c'est une postérité de 50 ans.
Ah oui, une postérité de 50 ans, oui.
Aux gens de la contrée entière, Rodez et Mio Sévérac, Saint-Amand, Bozoul, Sauveterre, les sacs espalions Campagnac et ça le curant Cassagne et Nantes. Ô ben Saint-Genier, Saint-Afrique, Pont de Salard et Saint-Chély, craignez tous les suites tragiques d'un sanglant courroux qui maudit.
Écrite sur l'air de la Paimpolaise, la complainte de Vezin, qui fait référence à une affaire criminelle de 1933, a été collectée en 1992 dans l'Aveyron auprès d'Eliette Sagnier. Pour revenir au foisonnant dernier quart du 19e siècle, Maxou a étudié de près les retombées chansonnières d'un fait divers de 1887, l'affaire Pranzini.
Oui, l'affaire aux 17 complaintes, c'est Frédéric Chauveau, historien, qui a publié sur cette affaire qui avait intitulé ainsi une de ses communications. C'est une affaire qui défraye la chronique parce que les thématiques qui s'y croisent sont très nombreuses. On peut dire une dame entretenue qui se fait assassiner. Mais sa bonne et l'enfant de cette bonne sont assassinés également. Et lorsqu'on arrête l'assassin, c'est un séducteur venu, un levantin, comme on disait à l'époque, ou un rastaquaire, comme on disait également à l'époque. Mmh. Donc il s'y mêle des diverses connotations. C'était un séducteur avéré. Et on a des tas de choses qui ont été écrites dessus. Et surtout à cette époque-là, apparaît un chansonnier absolument hors du commun qui s'appelle Jules Jouy, qui écrivait une chanson par jour dans la presse et qui a composé plusieurs chansons autour de l'affaire Pranzini en se focalisant sur la réception de l'affaire Pranzini par les gens du petit peuple. Et en particulier, il y en a une qui a mourir de rire, c'est l'histoire d'un gars qui veut aller à l'exécution de Pranzini. Donc il y va lundi soir pour avoir une bonne place, il passe la nuit à attendre et c'est pas cette nuit-là. Donc il revient le mardi soir, il passe sa nuit à attendre et c'est pas cette nuit-là. Et quand arrive la fin de la semaine, il s'écroule de fatigue et c'est cette nuit-là que Pranzini est exécuté. Donc voilà le type de chanson que Jules Jouy était capable d'écrire. On s'écarte de la forme de la complainte traditionnelle, mais néanmoins, c'est une source d'inspiration très abondante pour lui. Et il y en a une autre qui est assez humoristique, c'est On y a coupé la tête, sur l'affaire Pranzini, qui est chantée sur un succès de l'époque, qui est En revenant de la revue, donc une chanson très guillerette, et c'est plutôt étonnant d'avoir une chanson aussi enlevée pour chanter une affaire criminelle.
Donc là, on est en 1887, et l'air utilisé En revenant de la revue date de l'année précédente. Donc
voilà, il y a une grande actualité, on utilise les airs à la mode, les tubes.
C'en est fait, l'humaine justice a fait son œuvre, il est cramsé. C'est ainsi que fallait que finisse l'existence de ce déclassé. Vous pouvez respirer, mesdames, il n'est plus ce tueur de femmes. C'est un bel homme de moins, c'est vrai, mais laquelle de vous le regretterait? Il était fait au tout, il faisait bien la cour. Il avait l'air bien comme il faut, mais il avait un grand défaut. C'était pour leur argent quelques faisaient semblant d'aimer le sexe charmant qui le désirait pour amant. On y a coupé la tête sans pitié, il ne l'a pas volé, pas vrai, mesdames, c'est fait, ça y est, entre nous c'est bien fait. Mon vieux, voilà ce que c'est d'oxyre des femmes. Depuis ton bonne de triste mémoire, on n'avait pas vu de crime pareil. Non, vraiment, c'est à ne pas croire qu'il y ait si grand bandit sous le soleil. C'est horrible quand on y pense, et dire qu'il parlait d'innocence, et que puisqu'il n'y avait pas de témoin, l'acquitter, on ne pouvait faire moins. Oh, quelle blague! Depuis quand a-t-on vu des brigands? Alors crime convient les passants, c'est trop risible assurément. Et quel drôle d'alibi, je partageais le lit d'une femme qui, si je ne veux pas nommer, brave Henri. On y a coupé la tête sans pitié, il ne l'a pas volé, pas vrai, mesdames, c'est fait, ça y est, entre nous c'est bien fait. Mon vieux, voilà ce que c'est d'oxyre des femmes.
Comme dans la plupart des complaintes criminelles, la morale de celle-ci exige pour le coupable la peine capitale par guillotine. 10 ans plus tard, l'affaire de Joseph Vacher fera beaucoup de bruit, ce qui justifie un focus particulier de notre expert S-complainte criminelle, Maxou Edzen.
C'est une affaire qui est complètement hors norme par le rayon d'action de ce tueur errant, par les modalités de l'enquête qui a été menée par le juge Fourquet de Belley dans l'Ain. Je renvoie aux excellents ouvrages de mon camarade Marc Renville sur cette affaire, qui a même fait un ouvrage sur les complaintes de l'affaire Vacher. C'est dire que cette affaire a été chansonnée abondamment, 17 complaintes comme Pranzini.
Et là, on est à quelle époque là ?
Il est arrêté en 1897, exécuté en 99. Donc, les complaintes ont encore la forme à l'ancienne. Par exemple, c'est pas sur Vacher, mais c'est voilà un exemple d'appel. Venez entendre l'histoire, Jean de Rennes et de Vitré, de Montfort et de Liffré, vous garderez en mémoire les détails d'un crime commis à la rivière près d'ici. Donc vous voyez, pour toute complainte criminelle, on attire le chaland en lui disant ça s'est passé pas loin. Donc ça détermine le rayon d'action du chanteur qui vendait cette complainte. Donc ça, c'est la première partie, on appelle les gens. La deuxième partie, on raconte. Dans le cas de Vacher, il y a une complainte qui narre tous les crimes qu'il a reconnus. Il y en a 11, si ma mémoire est exacte. Et donc, vous voyez, donc ça fait minimum 11 couplets, voire pour certains crimes, 2 couplets. Donc, vous voyez, ça s'allonge. Ensuite, on peut raconter l'arrestation, on peut raconter le procès, et on termine toujours par une morale. Alors là, c'est du sévère, parce que la complainte est longue. Et quand arrive la morale, si je pouvais oser une métaphore un petit peu cavalière, c'est comme un couperet qui tombe. Parce que, très souvent, c'est l'appel à la loi du talion la plus dure. La complainte, c'est une voix populaire qui réclame une justice populaire. Lui, il a tué, faut le tuer. Voilà. Et ça va pas plus loin que ça. C'est très, très, très dur, très, 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 très violent. Et surtout, quand ça arrive au bout de 20 couplets, c'est une chute vraiment fantastique. Ce bandit que rien n'arrête veut se faire passer pour fou, on lui tranchera le cou, ça lui fera perdre la tête, et dans l'univers complet, chacun dira c'est bien fait. Voilà le premier type de morale, c'est qu'on lui coupe la tête. Et l'autre type de morale, c'est parents, occupez-vous bien de vos enfants, enfants, obéissez bien à vos parents. Voilà, c'est quelque chose de très moralisateur et c'est indiqué clairement dans la plupart des complaintes morales avant le dernier ou l'avant-dernier couplet, parce que parfois il y a deux couplets de morale. Donc la complainte pouvait avoir la même fonction que le conte, une fonction pédagogique pour apprendre aux enfants, faire peur aux enfants. Dans le cadre d'une veillée, on est au milieu de la famille, on chante ça, les enfants frissonnent, après on leur explique, on dédramatise, tout comme on le ferait après un conte où l'ogre mange la petite fille.
Petit berger, jolie bergère, innocent joueur de pipeau, quand vos moutons se désaltèrent à l'onde claire d'un ruisseau. Dans les roseaux, dans les fougères, vous redoutez de voir le loup ravir un agneau tout à coup et l'emporter dans sa tanière. Mais il est de plus grand danger auquel vous n'avez pas songé. Il existe des bêtes pires que le tigre altéré de sang, plus funeste que le vampire et plus traître que le serpent. Ce sont les fous qui violentent et signent leur acte pervers en taillant à même la chair de leurs victimes innocentes. C'est au comble de cette horreur que parvint Bouvier l'éventreur.
Donc cette affaire de Joseph Vacher a suscité, un peu comme pour l'Auberge Rouge, chanté bien plus tard par Yves Montand, là, on est encore plus tard, puisqu'on est en 1976, et Bertrand Tavernier tourne son film inspiré par cette affaire de Joseph Vacher, qui s'intitule « Le juge et l'assassin ».
Avec un rôle magnifique pour Michel Galabru, qui joue l'assassin. Et dans l'écriture, les scénaristes se sont écartés un petit peu de l'affaire sur différents plans, sur la vie personnelle du juge et autre chose. Mais par rapport à la biographie de Bouvier dans le film qui représente Vacher, on n'est pas si loin que ça de la réalité, l'aspect complètement illuminé, complètement se prétendant guidé par Dieu ou par la Vierge. On est très proche de la réalité. Et les réalisateurs ont fait quelque chose qui est très bien, c'est qu'on a remis dans le film un des modes de diffusion de cette affaire-là, qui est la complainte. Et c'est Jean-Roger Caussimon qui a écrit la complainte sur une musique de Philippe Sard. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est très bien écrite, elle pourrait être une complainte de l'époque. Mais Jean-Roger Caussimon a disposé en amont, on sait qu'il a eu le livre écrit par le juge, et dans ce livre, le juge reproduit des strophes de complaintes écrites à l'époque. Donc Jean-Roger Caussimon a été se nourrir à la meilleure source qui soit des originaux de l'époque.
Bouvier bien de cette engeance, de trimardeur de cheminots, mendiant le gîte et la pitance, anarchistes et marginaux. À la moisson et aux vendanges, on le voit hanter les hameaux, cachant toujours sous son chapeau son regard aux lueurs étranges. Il paraît pourtant bon garçon quand il joue de l'accordéon. Ainsi un long périple, revenant parfois sur ses pas, commettant des crimes multiples, jusqu'au jour où on l'arrêta. Alors il dit qu'en sa jeunesse, un chien enragé l'a mordu et qu'un médicament a dû mettre son esprit en faiblesse. Par surcroît, c'était odieux, se prétend inspiré par Dieu. Que ma complainte finisse, j'attends l'issue du jugement. Dans notre pays, la justice ne se trompe que rarement. Donc, bonnes gens, faites confiance aux enquêteurs, aux magistrats, au tribunal qui jugera celui qui fit trembler la France. En attendant que les geôliers veillent nuit et jour sur Bouvier.
Maxou Etsen, dans votre livre, on trouve également, par-ci par-là, l'évocation de chansons d'actualité qui ne sont pas exactement des complaintes criminelles, mais qui quand même s'y apparentent. Alors, on peut citer quelques exemples. Je pense à Quel malheur d'avoir un gendre en 1887 sur l'affaire des décorations, c'est-à-dire des trafics de Légion d'honneur par Daniel Wilson, qui était député d'Indre-et-Loire et qui se trouvait être le gendre du président Jules Grévy. Donc,
voilà, le président Grévy qui a démissionné à la suite de cette affaire. C'est une affaire assez peu connue du grand public, mais qui mérite quand même qu'on s'y arrête, parce que le gendre qui était député, qui vendait la Légion d'honneur moyennant en finance, n'a été jugé qu'en correctionnel. Et il a été réélu, et donc il est revenu siéger à l'Assemblée nationale quelques mois après. Et donc ça, par rapport au peuple des rues de Paris et des places des villages de France, c'est un crime. C'est ce que des collègues historiens m'ont conseillé d'appeler un crime ressenti. Donc, « À quel malheur d'avoir un gendre », c'est une parodie sur une chanson qui s'appelait « À quel bonheur d'avoir un gendre », qui était écrite peu avant, et donc qui a été adaptée et qui a été vendue dans toutes les rues. C'était un très très gros succès.
Qui a été enregistré plus tard par Aimé Donia.
« Je suis un honnête père de famille, ma seule passion c'est le jeu de billard. Un blond barbu, joli gaillard, une fois me demande la main de ma fille. » Nini qui se desséchait d'attendre un parti me dit « Papa, je le prends, ils sont mariés, mais ce que je m'en reprends, oh, quel malheur d'avoir un gendre !» D'abord, il se fit donner un poste grâce auquel il put, à propos, en s'affranchissant des impôts, ne rien affranchir à la poste. Un jour, il voulut s'en défendre à Tours et dans les alentours, mais il en fut pour son discours, oh, quel malheur d'avoir un gendre. Sous ce nom, Potvin et compagnie, mon gendre ouvrit des magasins, s'associant à des limousins pour exploiter un fonds de mercerie. À sa boutique, il se chargeait de vendre rubans, faveurs, oh, quel camelot! Maintenant, son commerce est dans de l'eau, oh, quel malheur d'avoir un gendre! Moi, je suis puré, bon de ma personne, on m'appelle même Papa Clément. Mon gendre ne peut pas en dire autant, maintenant que son nom dans la ville sonne, comme un nom qu'on ne peut pas entendre sans dire « Enlevez-le, n'en faut plus !» Je crois qu'il est fini comme Paulus. Oh, quel malheur d'avoir un gendre.
Dans ce style chanson d'actualité, bon, vous en citez pas mal. Finalement, il y a le scandale de Panama.
C'est de la délinquance en col blanc. On peut citer plus tardivement l'affaire Stavisky. Différents scandales, des escroqueries, l'affaire Anneau, la banquière des années folles, qui ont été également chansonnées. Ce sont des crimes en col blanc, c'est l'appellation contemporaine, qui parfois n'ont fini qu'en correctionnel, donc pénalement ne sont pas des crimes. Néanmoins, on a communiqué sur le récit de ces affaires de droit commun par le biais de la chanson. Donc, c'est pour ça que je les ai intégrées à mon corpus et que j'en parle dans mon ouvrage.
Alors, parmi les affaires qui ont eu un énorme retentissement au début du XXe siècle, il y a eu la fameuse affaire Stenel.
Oui, Madame Stenel. Ah, essayons d'être bref sur Madame Stenel. Tout le monde la connaît au moins indirectement. C'est elle la connaissance du président Faure, qui serait mort dans ses bras. Les choses ne sont pas tout à fait claires, mais bon, quand le président Faure était en galant de compagnie, c'était avec Madame Stenel.
Là, on était en 1899.
Voilà, et ouais. Donc là, cette affaire arrive plus tard, mais comme c'est Madame Stenel qui est concernée, évidemment qu'il y a un gros, gros intérêt de la presse.
Donc là, c'est 10 ans plus tard.
C'est 10 ans plus tard. Alors, Madame Stenel est l'épouse d'un peintre, et on disait que Madame Stenel courtisait des hommes riches dont elle faisait entretenir, et son mari faisait leur portrait moyennant finances. Et donc un beau jour, on retrouve Madame Stenel ligotée chez elle, son mari mort et sa belle-mère morte, le mari assassiné, la belle-mère c'est plus douteux, elle aurait fait une crise cardiaque. Et le problème c'est que Madame Stenel est attachée d'une façon assez approximative et on en vient à la suspecter. Et donc on a une abondance de chansons sur ce fait divers, j'en ai retrouvé 30 à l'heure actuelle, mais elles sont toutes parisiennes. C'est une affaire dont les journaux se gaussent. Parce
que c'est une affaire parisienne, de toute façon.
Oui, elle se déroule dans l'impasse Roncin, une maison bourgeoise. Par exemple, au bout de plusieurs mois d'enquête, on s'aperçoit que le juge d'instruction était un familier du salon de Madame Stenel, pour ne pas dire plus. Donc, scandale, nouveau juge d'instruction, etc. Et l'affaire traîne, mais Madame Stenel, en fait, quand elle est passée aux assises, a été acquittée, parce qu'on n'avait pas de preuves définitives pour attester qu'elle était complice, même si tout le monde s'en doutait. Elle a eu des versions tout à fait variable, et l'imagination des chansonniers sans fin. Pensez donc, son employé de maison s'appelait Monsieur Rémy Couillard, et on l'a emprisonné un moment, et évidemment, il y a une chanson qui a dit « Et finalement, Rémy Couillard sort ». Voilà. Donc, l'imagination des chansonniers sur l'affaire Stenel a été sans limite.
Donc effectivement, il y a une trentaine de complaintes qui ont été écrites sur cette affaire, donc aux alentours de 1909. Mais avec tous les épisodes, le moment où elle était emprisonnée à la prison de Femmes Saint-Lazare, qui n'existe plus, dans le 10e arrondissement. Et j'ai retrouvé un document, Maxou Edzen, qui va, je pense, vous intéresser, puisque c'est un enregistrement contemporain de cette affaire. Donc là, on arrive à l'époque où le phonographe intervient. Mmh. On a des traces enregistrées, ce qui n'était pas le cas évidemment au 19e siècle, parce que les chansonniers s'emparent également des affaires, les chansonniers d'actualité. Et là, il s'agit de Roger de Beaumercy qui, donc en 1910, chante l'affaire Stenel.
Déposition devant la cour d'assises d'un haut fonctionnaire de Saint-Lazare. Première fois, dans sa cellule au mur si froid, j'ai compris le pouvoir de cette femme. Je ne pouvais plus décemment l'astreindre à nos durs règlements. Et alors je lui dis, madame, je ferai venir chez Marguerite des huit du poulet de la crème, que je vous servirai moi-même, car pour le menu qu'on donne ici, vous êtes trop jolie, trop jolie, trop jolie, t'abîmerai votre santé. Laquelle il me faut payer. Vous mettez la folie, la folie, la folie dans le cœur de chaque homme. Vous savez les grisés d'amour toute leur vie.
Maxou Edzen, cette affaire Stenel, elle est un peu cousine d'une autre affaire qui a éclaté 5 ans plus tard, en 1914, vraiment à la veille du conflit, c'est l'affaire Caillot.
Oui, oui, l'affaire Caillot. Donc Madame Caillot, épouse du ministre des Finances Joseph Caillot, à qui nous devons l'impôt sur le revenu. On ne manifeste pas, merci. Donc Madame Caillot, qui est allée abattre le directeur du Figaro dans son bureau parce qu'il se proposait de publier des lettres intimes de Joseph Caillot à sa femme, alors qu'elle était encore sa maîtresse. Donc, quand on dit que les conflits avec la presse sont violents aujourd'hui, ils étaient tout aussi violents par le passé. Et donc, le parallèle avec l'affaire Stenel, c'est que Madame Caillot, donc, est l'épouse d'un ministre, une dame de la haute, comme on disait à l'époque, et qu'elle est emprisonnée, elle aussi, à Saint-Lazare. Alors, bien sûr, elle a un traitement de faveur, ce qui déchaîne la verve des chansonniers. Elle a quitté Saint-Lazare. Voilà. On chante des tas de choses sur le fait que cette affaire entre les grosses est jugée entre eux. Le président de la République est venu témoigner en faveur de Madame Caillot. Voilà. Donc, c'est une affaire qui est unanimement jugée par le petit peuple. Ils vont se débrouiller entre eux et elle passera à travers. Et l'acquittement de Madame Caillot est passé inaperçu. S'il n'y avait pas eu cette histoire de Première Guerre mondiale, Madame Caillot acquittée, ça aurait été chansonné. Mais il n'y a pas eu le temps, elle était acquittée à la fin juillet 14 et la guerre a commencé immédiatement. Donc, dans le même ordre d'idées, la mort de Jaurès n'a pas été chansonnée.
Deux jours après l'assassinat de Jean Jaurès, la Grande Guerre éclate et nous verrons dans la prochaine émission, avec Maxou Hetzen, ce qu'il adviendra des complaintes criminelles. Tour de chant, une émission de Martin Penney, avec le concours de Dorothée Goll à la préparation, Xavier Atto à la prise de son, Titouan Oex au mixage, Doria Zénine à la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.